Étais-je prêt à devenir un grand dirigeant international? Avais-je l'habileté diplomatique, les connaissances et l'énergie requises, l'autorité nécessaire pour commander? La feuille de route de notre voyage avait été conçue expressément pour répondre à ces questions. C'était une grande séance d'audition sur la scène internationale. Il y a eu des rencontres bilatérales avec le roi Abdallah en Jordanie, Gordon Brown en Angleterre, Nicolas Sarkozy en France. J'ai vu Angela Merkel en Allemagne. À Berlin, j'ai également pris la parole devant 200 000 personnes rassemblées autour de la colonne de la Victoire et déclaré que, de même qu'une génération précédente avait abattu le mur qui divisait l'Europe autrefois, il nous revenait à présent d'abattre d'autres murs, moins visibles, ceux qui séparaient les riches et les pauvres, les ethnies et les tribus, les indigènes et les immigrés, les chrétiens, les musulmans et les juifs. Pendant deux journées marathon en Israël et en Cisjordanie, j'ai rencontré séparément le premier ministre israélien Ehud Olmert et le président palestinien Mahmoud Abbas. Et je me suis efforcé de comprendre non seulement la logique, mais aussi les émotions à l'œuvre derrière un conflit ancestral en apparence insoluble. À Sderot, j'ai écouté des parents décrire le spectacle terrifiant des obus lancés depuis la ville voisine de Gaza, qui tombaient à quelques mètres à peine de la chambre de leurs enfants. À Ramallah, j'ai écouté les Palestiniens évoquer les humiliations quotidiennes qu'ils subissaient au checkpoint israélien. D'après Gibbs, la presse américaine estimait que j'avais réussi haut la main le test de la crédibilité présidentielle. Mais pour moi, ce voyage allait au-delà des apparences. Plus encore qu'aux États-Unis, je prenais peu à peu la mesure des défis immenses qui m'attendaient si je gagnais et de la circonspection dont je devrais faire preuve pour être à la hauteur. Voilà à quoi je songeais lorsque, le matin du 24 juillet, je suis arrivé devant le mur des Lamentations, à Jérusalem, bâti il y a 2000 ans pour protéger le site sacré du Mont du Temple et considéré comme un portail ouvrant sur la voie de la divinité, un lieu où Dieu reçoit les prières de tous ceux qui viennent là. Depuis des siècles, les pèlerins du monde entier écrivent rituellement leurs prières sur de petits bouts de papier qu'ils glissent ensuite dans une fissure entre les pierres. Avant de m'y rendre ce matin-là, j'avais écrit ma propre prière sur une feuille de papier en tête de mon autel. Dans la lumière grise de l'aube, entouré par mes hôtes israéliens, les conseillers, les agents du Secret Service et le vacarme des caméras, j'ai incliné la tête devant le mur tandis qu'un rabbin barbu lisait un psaume appelant à la paix dans la ville sainte de Jérusalem. Comme le veut la coutume, j'ai posé une main sur la douce pierre calcaire, observé quelques instants de recueillement immobile et silencieux, puis j'ai plié mon bout de papier et je l'ai enfoncé dans une lézarde du mur. « Seigneur, avais-je écrit, protège-moi et ma famille, pardonne-moi mes péchés et garde-moi de l'orgueil et du désespoir. Donne-moi la sagesse de faire ce qui est bon et juste, et fais de moi l'instrument de ta volonté. » Je pensais que ces mots étaient destinés à rester entre Dieu et moi, mais le lendemain, ils sont apparus dans un journal israélien avant d'accéder à la vie éternelle sur Internet. Apparemment, quelqu'un était allé dénicher mon petit mot dans le mur après notre départ, illustration du prix à payer lorsqu'on montait sur la scène internationale. La frontière entre ma vie privée et ma vie publique s'estompait. Chacune de mes pensées, chacun de mes gestes était désormais une affaire d'intérêt international. « Il va falloir t'y faire, me suis-je dit. Ça fait partie du deal. » De retour de ma tournée à l'étranger, je me sentais comme un astronaute ou un explorateur qui revient chez lui après une expédition périlleuse, chargé d'adrénaline et vaguement désorienté par la vie ordinaire. Il ne restait plus qu'un petit mois avant la convention nationale du Parti démocrate, et j'ai décidé de renouer un peu avec le cours normal des choses en partant à Hawaï pour une semaine, en famille. J'ai dit à Plouffe que ce n'était pas négociable. Après avoir passé les 17 derniers mois à faire campagne, j'avais besoin de recharger les batteries, et Michel aussi. Par ailleurs, l'état de santé de toutes se détériorait rapidement, et même si nous ne savions pas exactement combien de temps il restait à vivre à ma grand-mère, j'étais bien décidé à ne pas répéter l'erreur que j'avais commise avec ma mère. Surtout, je voulais passer du temps avec mes filles. La campagne ne semblait pas avoir entamé nos liens. Malia se montrait aussi bavarde et curieuse avec moi que d'habitude, Sacha aussi exubérante et affectueuse. Quand j'étais sur la route, nous nous parlions tous les soirs au téléphone, de l'école, de leurs amis ou du dernier épisode de Bob l'éponge. Quand j'étais à la maison, je leur faisais la lecture, je les défiais à des jeux de société ou je sortais en douce avec elles pour aller manger une glace. Pourtant, je voyais bien d'une semaine sur l'autre la vitesse à laquelle elles grandissaient. Chaque fois que je les revoyais, Il me semblait qu'elles avaient encore pris 1 ou 2 centimètres, que leur conversation à table était plus sophistiquée. Ces transformations me rappelaient tous ceux à côté de quoi j'étais passé, tous les moments où je n'avais pas été là pour m'occuper d'elles quand elles étaient malades, ou pour les rassurer en les serrant dans mes bras quand elles avaient peur, ou pour rire à leurs blagues. Même si je croyais profondément à l'importance de ce que j'étais en train de faire, je savais que jamais je ne pourrais rattraper tout ce temps passé loin d'elles. Et il m'arrivait souvent de m'interroger sur le bien fondé de mes choix. J'avais toutes les raisons de me sentir coupable. Il est difficile de décrire le fardeau que j'ai fait peser sur les épaules de ma famille pendant les 2 années qu'a duré la course à la présidence. À quel point je me suis reposé sur la solidité de Michel et sur sa capacité à gérer seule la charge parentale. Et à quel point j'ai pu compter sur les dispositions naturellement joyeuses et l'étonnante maturité de mes filles. L'été précédent, pendant la campagne, Michel avait accepté de me rejoindre avec les filles à Butte, dans le Montana, pour la fête nationale du 4 juillet, jour où nous fêterions également le 10e anniversaire de Malia. Ma sœur Maya et sa famille avaient décidé de nous rejoindre eux aussi. Nous nous étions énormément amusés, entre la visite d'un musée de la mine et une bataille de pistolets à eau. Mais j'avais dû tout de même consacrer l'essentiel de mon temps à la chasse au suffrage. Les filles m'avaient sagement suivi dans ma tournée, me regardant distribuer les poignées de main tout le long du cortège dans la rue principale de la ville. Elles étaient restées debout sous le soleil écrasant pendant le discours que j'avais prononcé lors d'un rassemblement ce même après-midi. Le soir, alors que le feu d'artifice que je leur avais promis avait dû être annulé en raison d'un orage, nous avions improvisé une fête d'anniversaire pour Malia dans une salle de séminaire sans fenêtre au sous-sol de l'Holiday Inn du coin. Notre équipe de terrain avait fait de son mieux pour égayer l'endroit avec quelques ballons. Il y avait des pizzas, de la salade et un gâteau de supermarché. En regardant Malia souffler ses bougies et former un vœu pour l'année à venir, je ne pouvais pas m'empêcher de me demander si elle était déçue, si cette journée, lorsqu'elle y repenserait plus tard, lui évoquerait l'image d'un père négligent, accaparé par d'autres priorités. C'est alors que Kristen Jarvis, l'une des jeunes assistantes de Michel, avait dégainé un iPod et l'avait branché à une enceinte portative. Malia et Sacha m'avaient pris par les mains pour me tirer de ma chaise. Et bientôt, tout le monde s'était mis à danser sur Beyoncé et les Jonas Brothers. Sacha tournoyait sur elle-même. Malia faisait tressauter ses bouclettes en secouant la tête dans tous les sens. Michel et Maya se lâchaient sur la piste, tandis que je faisais la démonstration de mes talents chorégraphiques d'un autre temps. Au bout d'une demi-heure, alors que nous étions tous essoufflés et ravis, Malia était venue s'asseoir sur mes genoux. « Papa, » m'avait-elle dit, « c'est le meilleur anniversaire de toute ma vie. » Je l'avais embrassée au sommet du crâne et l'avais serrée fort contre moi, pour qu'elle ne voie pas les larmes me monter aux yeux. Voilà mes filles. Voilà à quoi j'avais renoncé en étant si souvent absent. Et voilà pourquoi cette escapade à Hawaï au mois d'août en valait la peine. Même si cela devait nous coûter quelques points de retard dans les sondages face à McCain. Barboter dans l'océan avec les filles, les laisser m'enterrer dans le sable sans être obligé de leur dire que j'avais une réunion en visioconférence ou que je devais partir à l'aéroport. Oui, ça en valait la peine. Regarder le soleil se coucher sur le Pacifique, Michel blotti entre mes bras, écouter simplement le frémissement des palmiers dans le vent. Oui, ça en valait la peine. Voir toutes assises sur le canapé de son salon, toutes courbées, presque incapables de lever la tête, mais le visage toujours éclairé d'un grand sourire, du bonheur muet de regarder ses arrière-petites filles rire et jouer par terre à ses pieds, et puis sentir sa main tavelée aux veines bleues serrer la mienne, pour la dernière fois peut-être. Ce sacrement-là n'avait pas de prix. Je ne pouvais toutefois pas laisser la campagne entièrement derrière moi pendant notre séjour à Hawaï. L'équipe me tenait au courant des dernières nouvelles, je passais quelques coups de fil pour remercier nos soutiens, et j'ai rédigé un premier jet de mon discours à la convention que j'ai envoyé à Favs. Et puis, il y avait la grande décision, la plus lourde de conséquences, qu'il me fallait prendre maintenant que j'étais le candidat officiel du Parti démocrate. Qui serait mon colistier? J'avais déjà réduit mon choix à 2 candidats potentiels, Tim Kaine, le gouverneur de la Virginie, et mon collègue du Delaware au Sénat, Joe Biden. À l'époque, j'étais beaucoup plus proche de Tim, qui avait été le premier élu de poids en dehors de l'Illinois à m'apporter son soutien, et l'un des défenseurs les plus acharnés de ma candidature pendant ma campagne. Nous venions tous deux du Midwest, nous avions le même genre de tempérament, et même nos parcours étaient similaires. Tim était parti en mission au Honduras, à l'époque où il faisait ses études de droit à Harvard, et il avait été avocat spécialisé dans les droits civiques avant de s'engager en politique. Quant à Joe, il était mon exact opposé, du moins sur le papier. Il avait 19 ans de plus que moi. J'étais un outsider dans l'univers de Washington. Lui siégeait depuis 35 ans au Sénat, où il avait présidé la commission judiciaire et la commission des affaires étrangères. Alors que j'avais passé toute mon enfance à bouger d'un endroit à l'autre, il était profondément enraciné dans sa ville natale de Scranton, en Pennsylvanie, et il était très fier de ses origines irlandaises et populaires. Nous ne devions découvrir que plus tard, après avoir remporté l'élection, que nos ancêtres irlandais respectifs, tous deux bottiers, avaient émigré en Amérique à 5 semaines d'écart seulement. Et alors que je passais pour quelqu'un de calme et de pondéré, prudent dans l'usage de mes mots, Joe était tout feu tout flamme, un homme dépourvu d'inhibition, qui se faisait toujours un plaisir de partager avec vous tout ce qui lui passait par la tête. C'était un trait attachant de sa personnalité, car il avait une réelle affection pour les gens. Cela transparaissait dès qu'il se retrouvait dans une pièce avec d'autres personnes, son beau visage affichant en permanence un sourire étincelant et toujours tout près de celui à qui il s'adressait, demandant à chacun de ses interlocuteurs d'où il venait, enchaînant par une anecdote, lui disant à quel point il adorait l'endroit en question, la meilleure calzone que j'ai jamais mangée de toute ma vie, ou qu'il devait forcément connaître un tel ou un tel, un type absolument formidable, la crème de la crème, flattant ses enfants, on t'a déjà dit que tu étais très mignon, ou leur mère, incroyable, je vous en aurais donné 40, pas un jour de plus. Puis, passant au suivant, puis un autre, et encore un autre, ne s'arrêtant que lorsqu'il avait conquis tous les cœurs, à grand renfort de poignées de main, d'accolades, de bises, de tapes dans le dos, de compliments et de répliques spirituelles. L'enthousiasme de Joe avait ses inconvénients. Dans une ville remplie de gens qui n'aimaient rien tant que s'écouter parler, il manquait de partenaires de conversation. Si son temps de parole lors d'un événement officiel était limité à 15 minutes, Joe parlait pendant au moins une demi-heure. S'il était limité à une demi-heure, Dieu seul savait de combien de temps il allait dépasser. Ses monologues durant les auditions sénatoriales étaient légendaires. Son absence de filtre le mettait parfois dans des situations délicates, comme le jour pendant les primaires, où il avait dit de moi que j'étais clair et précis, intelligent, toujours soigné et séduisant. Autant de compliments dans son esprit sans aucun doute, mais que certains avaient interprété de travers, comme s'il avait voulu dire que de telles caractéristiques étaient rares chez un noir. À mesure que j'ai appris à le connaître, cependant, je me suis vite aperçu que ses bourdes occasionnelles étaient triviales au regard de ses qualités. Sur les affaires de politique intérieure, il était perspicace, pragmatique, et il connaissait ses dossiers sur le bout des doigts. Il avait une grande expérience et des connaissances approfondies en matière de politique étrangère. Au cours de sa brève campagne pendant les primaires, il m'avait impressionné par ses compétences et sa rigueur dans les débats, ainsi que par son aisance sur la scène nationale. Mais surtout, Joe avait du cœur. Il avait vaincu le bégaiement dont il avait été affligé pendant son enfance, ce qui expliquait sans doute la grande importance qu'il accordait aux mots, et surmonté 2 anévrismes à l'âge adulte. Au cours de sa carrière politique, il avait connu des succès précoces et subi des défaites embarrassantes. Et il avait été frappé par une tragédie inimaginable. En 1972, quelques semaines à peine après son élection au Sénat, sa femme et sa petite-fille étaient mortes, et ses 2 jeunes fils, Beau et Hunter, blessés, dans un accident de la route. À la suite de ce deuil, ses collègues et sa famille l'avaient convaincu de ne pas démissionner de son poste de sénateur, mais il avait organisé son emploi du temps de façon à pouvoir faire tous les jours le trajet 1h30 en train aller-retour entre Washington et le Delaware pour s'occuper de ses garçons, ce qu'il continuerait de faire pendant les 3 décennies suivantes. Si Joe avait réussi à survivre à une telle épreuve, le mérite en revenait en grande partie à sa 2e épouse, Jill, une charmante et discrète enseignante qu'il avait rencontrée 3 ans après l'accident, et qui avait élevé les fils de Joe comme les siens. Chaque fois qu'on voyait les Biden ensemble, on sentait immédiatement la force du soutien que Joe puisait auprès de sa famille. La fierté et la joie que lui inspirait Beau, devenu procureur général et étoile montante du paysage politique du Delaware, Hunter, avocat à Washington, Ashley, assistante sociale à Wilmington, et leurs magnifiques petits-enfants. Joe s'en était sorti grâce à ses proches, mais aussi grâce à son énergie débordante et à sa force de caractère. La tragédie et les revers avaient peut-être laissé des cicatrices, ainsi que je le découvrirai par la suite, mais ne l'avaient pas rendu aigri ou cynique. C'est sur la foi de ces impressions que j'avais demandé à Joe de se soumettre au processus de validation préalable à sa désignation comme colistier et de me rejoindre dans le Minnesota pour faire campagne à mes côtés. Il était réticent au début. Comme la plupart des sénateurs, Joe avait un certain ego et l'idée de jouer les seconds couteaux ne lui plaisait pas beaucoup. Il m'avait d'abord exposé toutes les raisons pour lesquelles le rôle de vice-président représenterait un recul pour lui dans sa carrière politique, tout en expliquant pourquoi il était le meilleur candidat à ce poste. Je lui ai assuré que je ne cherchais pas une doublure pour faire tapisserie et satisfaire au protocole, mais un véritable partenaire de travail. « Si tu me choisis, » avait dit Joe, « je veux avoir les moyens de te donner un avis éclairé et de te conseiller en toute franchise. Ce sera toi le président et je défendrai tes décisions, quelles qu'elles soient. Mais je veux être le dernier type dans la pièce à chacune des décisions importantes. » Je lui avais répondu que j'étais prêt à prendre cet engagement. Axe et Plouffe avaient la plus grande estime pour Tim Kaine, et, comme moi, ils savaient qu'il aurait trouvé tout naturellement sa place au sein d'une administration Obama. Mais, comme moi également, ils se demandaient si présenter sur le même ticket deux personnalités de l'aile gauche du parti, tous deux avocats des droits civiques, tous deux relativement jeunes et inexpérimentés, ne serait pas pousser un petit peu trop loin l'espoir et le changement aux yeux des électeurs. Choisir Joe n'était pas sans risque non plus. Nous avions peur que son manque de discipline, dès qu'il se retrouverait devant un micro, ne puisse donner lieu à des controverses inutiles. Il était un peu vieille école, il aimait l'attention médiatique et il manquait parfois de retenue. Je le pensais capable de se braquer s'il estimait ne pas être traité à sa juste valeur, disposition qui risquait d'être plus prononcée encore face à un patron beaucoup plus jeune que lui. Et pourtant, j'étais séduit par le contraste que nous offrions. J'appréciais que Joe soit plus que prêt à endosser la charge présidentielle si jamais il m'arrivait quelque chose, et que cela puisse rassurer tous ceux qui continuaient à me trouver trop jeune. Son expérience en matière de politique étrangère serait précieuse, à un moment où nous étions empêtrés dans deux guerres, tout comme son entregent au Congrès et sa capacité à convaincre ceux qui ressentaient encore un certain malaise à l'idée d'élire un président afro-américain. Mais ce qui importait le plus, c'était ce que me disait mon instinct, à savoir que Joe était un type droit, honnête et loyal. J'avais la conviction qu'il se souciait sincèrement des gens et que je pourrais compter sur lui dans les moments difficiles. Je ne serais pas déçu.